C'est comme un feuilleton, la rentrée littéraire se poursuit durant plusieurs semaines et nous la suivons au fil des émissions. Et pour vous aider à faire un choix dans la multitude de livres qui sortent chaque année, quoi de mieux que d'écouter la sélection proposée par Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Nous débutons avec vous Christelle.
Exactement Eric, à voix haute, Paulina Panasenko aux éditions de l'Olivier. Alors c'est vrai que c'est un livre que j'avais vraiment très envie de lire puisque c'est le deuxième de l'autrice. Après un premier roman qui avait obtenu le prix Fémina des lycéens qui s'appelle Tenir sa langue et qui déjà effectivement avait donc fait pas mal parlé de lui et que moi j'avais à l'époque déjà beaucoup aimé. Alors voici Paulina Panasenko de retour avec vraiment ce très 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 beau récit. Je vais vous dire pourquoi. On n'est pas forcément dans le roman comme le précédent, puisque dans ce roman, eh bien, c'est l'histoire d'un retour au pays natal, l'histoire d'une jeune femme qui rêve de devenir une grande actrice de théâtre. C'est l'histoire d'une enquête familiale vertigineuse. Et c'est aussi un récit d'aventure dans un territoire immense qu'est la Russie. Donc c'est vraiment un peu tout cela que nous relate Paulina Panasenko avec beaucoup de brillant, dans une langue tantôt vivante, tantôt très incarnée, parfois tranchante et de temps en temps espiègle. Et ça c'est peut-être cette petite caractéristique que l'on trouvait déjà dans son premier récit. Alors, dans une première partie, eh bien, on va suivre une jeune étudiante. C'est elle, je suppose, que l'on suit lors de son retour à Moscou chez son grand-père, puis de son intégration au sein de l'école du théâtre national de Moscou. Et elle va y répéter notamment du Tchekhov. Alors, elle va y découvrir des règles implicites de fonctionnement et de non-dits avec le maître et l'autre maître, aussi craint qu'admiré. Tandis qu'au dehors, eh bien, la Russie de Poutine réprime et verrouille. Et elle vit chez son grand-père, un personnage très attachant, et même avec ce grand-père, eh bien, certains mots ne se prononcent pas à voix haute. Alors, ensuite, on a un basculement du roman avec l'apparition d'une photographie, la découverte d'une photographie. C'est celle de l'arrière-grand-père disparu sans laisser vraiment de traces dans la machine répressive soviétique. Et là, on peut dire que c'est presque un deuxième roman qui se déploie sous vos yeux, puisque débute alors vraiment une enquête totalement vertigineuse de la part de la narratrice, la menant vraiment à l'extrême-orient de la Russie, à force de recherches, d'archives. Et vraiment, la tension devient palpable au fur et à mesure que l'on passe les pages. Alors, entre tous ces silences, ces obstacles, ces secrets, eh bien, malgré tout cela, la narratrice va chercher désespérément à en savoir plus sur cet arrière-grand-père, mêlant ainsi mémoire intime, mémoire familiale et aussi mémoire collective. Donc, vraiment, c'est un très, très beau roman. Pour moi, c'est un beau coup de cœur de cette rentrée 2026. Et voilà, j'aurais envie de dire que c'est vrai que Paulina Panasenko nous avait vraiment émus, nous avait touchés, nous avait fait sourire avec Tenir sa langue. Et là, eh bien, moi, je trouve qu'elle confirme ici qu'elle a tout d'une grande. Voilà, donc à voix haute de Paulina Panasenko aux éditions de l'Olivier.
Merci Christelle. Sylvain Sipango de Jean-Marie Blas de Robles.
Alors oui, on continue bien sûr, comme vous l'avez dit, à lire, découvrir les livres qui sont proposés pour cette rentrée littéraire. Et alors là, autant vous dire que je vais vous parler d'un énorme coup de cœur de cette rentrée pour une véritable pépite pour moi, une grande fresque historique et scientifique. Parce que, songez plutôt, l'auteur va réaliser le tour de force de nous tenir en haleine avec deux récits parallèles, complètement différents. Dans le premier récit, il nous conte les aventures et la vie d'un jeune homme qui s'appelle Donato Belmonte, qui est un jeune étudiant portugais au XVIe siècle, et il est contraint subitement, au tout début du roman, de fuir son Portugal natal parce que l'Inquisition le menace. Son père a déjà été condamné par l'Inquisition et il est le prochain sur la liste. Alors il fuit, il monte à bord d'un navire marchand et il prend la direction des Indes. Sauf qu'il ne va pas s'arrêter aux Indes, mais il va poursuivre son périple en Extrême-Orient et en Asie, et il va découvrir l'archipel de Cipango, que Marco Polo avait nommé Cipango, et qui est l'archipel du Japon, ainsi nommé à l'époque par Marco Polo. Et là, il va s'y établir, et il va faire fortune, se marier, et avoir une vie pleine de rebondissements. L'autre récit, accrochez-vous, nous sommes dans la période actuelle et nous voyons donc une personne qui s'appelle Ilona Malone, qui est une milliardaire, qui a fait fortune dans la high-tech, donc tout parallèle avec des personnages existants et bien entendu pas fortuit. Et figurez-vous qu'elle poursuit le rêve de coloniser la planète Mars. Ça rappelle un petit peu des cinglés qu'on a pu voir sur nos écrans. Et pour ce, elle va s'entourer de différents scientifiques qui poursuivent donc dans différents domaines des expériences les plus folles et les plus hasardeuses avec le but vraiment de s'installer sur Mars. Donc vous allez suivre pendant, parce que c'est un roman ample, long, pendant plus de 700 pages, vous allez suivre ces deux histoires. Et figurez-vous que l'auteur, qui est vraiment très virtuose, va dans les dernières pages, dans les 40 dernières pages, faire converger ces deux histoires dans un final qui est absolument étonnant, que je n'avais pas vu venir du tout et qui va surprendre beaucoup de lectrices et de lecteurs, mais vraiment, c'est très très virtuose. Il va vraiment faire le lien entre cette histoire au XVIe siècle et la conquête de Mars actuellement. Alors, vous l'avez compris, moi j'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé imaginatif, je l'ai trouvé intelligent, souvent érudit, on apprend beaucoup de choses sur les sciences, sur les technologies, et puis il nous interroge aussi, alors principalement sur le désir de conquête qui a constamment animé l'homme, que ce soit au XVIe ou maintenant, mais aussi l'éthique, l'utilisation que l'on fait des technologies, et puis l'appât du gain. Donc vraiment, je recommande ce livre, c'est un immense plaisir de lecture, un très très grand roman épique et foisonnant, comme je n'avais pas lu depuis très longtemps, et qui pour moi redonne ses lettres de noblesse à la littérature, et qui possède un souffle absolument incroyable. Quand vous lisez ça, j'ai refermé le livre en me disant quel livre, quelle somme. Et en même temps, ça se lit très facilement. C'est vraiment une littérature accessible, mais exigeante, intelligente. Et vraiment, j'ai vraiment envie de partager ce livre avec beaucoup de personnes parce que c'est un livre parfait. Vous rentrez dans ce livre, c'est foisonnant. Il y a des personnages, vous êtes pris, vous avez envie de les retrouver chaque fois que vous ouvrez le livre. Donc vraiment, je vous conseille en cette rentrée littéraire, embarquez-vous dans ce voyage, partez vers Cipango avec cet auteur, donc Jean-Marie de Robles. Alors je répète le titre, Cipango, Jean-Marie de Robles, aux éditions Zulma.
Merci Sylvain, le duc de Matteo Melchior.
Exactement Eric, oui parce qu'il y a toujours les sorties poches c'est important. Maintenant on souhaite toujours faire une sortie vraiment nouveauté grand format et une sortie poche avec des titres que l'on a évidemment beaucoup aimés. Et Le Duc en fait partie. Il était sorti initialement aux belles éditions Métayer. Alors avec Le Duc, là aussi c'est un peu un voyage, pas forcément un voyage très loin, puisqu'on va dans les montagnes du nord de l'Italie, à l'époque contemporaine. Et le comte de Cimamonte dit Le Duc, par les gens du village du coin, revient donc sur les terres de ses ancêtres pour habiter la villa du domaine. Et cet homme érudit vit plutôt bien des rentes familiales qui sont issues pour la plupart de l'exploitation de la forêt. Une forêt qu'il voit, qu'il observe, qu'il aime, mais qui est géré par un employé voisin, jusqu'au jour où celui-ci lui apprend qu'un certain Fastreda s'est approprié une partie de ses terres et les exploite. Partant, la guerre va être déclarée entre ces deux personnages, mais avec des moyens très différents de part et d'autres. En effet, le duc, c'est un jeune homme héritier d'une famille anoblie, et c'est un jeune homme qui est surtout passionné par l'histoire de sa famille et qui se questionne sur la légitimité du domaine qu'il possède. Et cette guerre avec Fastreda voit donc s'opposer deux hommes qui n'ont a priori rien en commun. J'insiste sur le a priori. Fastreda étant une sorte de patriarche local avec beaucoup d'influence sur les habitants du village. Donc va se jouer donc un duel entre ces deux hommes qui révélera petit à petit les strates profondes d'une violence séculaire. Alors, encore une fois, c'est vraiment, ça avait été un très très beau coup de cœur parce que, comme disait Sylvain avec Cipango, c'est de ces romans un peu au long cours, assez dense, mais un roman ensorcelant, poétique et même un peu sauvage sur l'héritage, parce qu'il y est question de ça, des rivalités familiales, mais aussi et surtout quand même d'un grand texte sur la montagne en tant que personnage à part entière. Et d'ailleurs, je vois que les éditions Poche en Point ont repris cette belle couverture avec ces montagnes qui pourraient d'ailleurs ressembler un petit peu à nos montagnes d'ici, avec un léger, une légère brume et des sapins d'automne. Donc vraiment, voilà, un roman, moi aussi, que je ne peux que recommander parce que, encore une fois, un roman d'une grande et rare intensité, on pourrait dire entre tradition littéraire un peu classique et des thématiques, pour le coup, extrêmement contemporaines. Donc Le Duc de Matteo Melchior en poche aux éditions Point.
Merci Christelle. Sylvain, Les voisins de Diane Oliver.
Exactement, aux éditions Libretto. Alors ben, on continue, hein, et puis là effectivement comme le disait Christelle, la rentrée littéraire c'est aussi des sorties poche, et là c'est un livre qui vous est proposé en livre de poche, et là aussi c'est une magnifique découverte que nous proposent les éditions Phébus, puisque Libretto c'est la collection poche des éditions Phébus. Il publie donc ce livre, Les voisins de Diane Oliver, qui a été écrit dans les années 60 par une très jeune autrice noire américaine. Alors, ce livre, qui fait à peu près 270 pages, propose une série de nouvelles. Vous avez à peu près 10-11 nouvelles qui dépeignent l'Amérique à une époque particulière, dans les années 60, époque où les lois anti-ségrégation furent votées, mais, et c'est le moins qu'on puisse dire, l'Amérique connaissait encore un racisme très fort envers les Noirs américains, les Afro-américains, et une hostilité particulièrement affirmée, notamment dans le sud des États-Unis, puisque beaucoup de nouvelles se passent en Alabama, en Géorgie, vraiment le sud profond, où effectivement les problèmes raciaux ont été très longtemps problématiques. Alors, elle va vous proposer des courtes nouvelles, hein, à peu près une vingtaine de pages à chaque fois, et elle va vous proposer des histoires. On va suivre par exemple la famille, c'est la première nouvelle, la famille noire d'un jeune garçon à la veille de son entrée dans une école, puisque à l'époque, effectivement, les jeunes noirs ont commencé à être placés dans des écoles qui étaient jusque-là réservées aux blancs. Donc on a tous ces images d'enfants accompagnés par la police, puisqu'il y avait une hostilité de la population, accompagnés pour aller à l'école. Donc ça, c'est la première nouvelle. On va aussi suivre une jeune fille qui est afro-américaine et qui va faire ses premiers pas à l'université. Et là aussi, qui va être une des premières afro-américaines à être admise à l'université avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer. Et puis, on voit par exemple, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, un groupe de jeunes noirs qui, par réaction, décident de forcer l'entrée d'un restaurant pour se faire servir dans un restaurant qu'il ne leur est pas réservé. Et voilà, donc on voit la réaction et du propriétaire du restaurant et de la police, puisqu'il appelle la police pour demander à ce qu'il soit arrêté. Et puis, au fil de toutes ces nouvelles, j'allais dire, c'est surtout les vies et destins des sans-voix que la société souvent ignore ou a ignoré. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Elle propose à chaque fois des instantanés très forts, marquants, qui donnent vraiment à voir une époque et un pays, hein, les États-Unis dans les années 60, avec le problème de la ségrégation. C'est magistralement écrit, c'est très fort. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque nouvelle aussi se déploie avec beaucoup de délicatesse et de subtilité. Elle n'assène pas les choses. Elle vous partouche, elle vous fait comprendre une atmosphère, un sentiment, une injustice. Et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé d'une très très grande force et que j'ai vraiment envie de partager. Alors, il n'y a qu'un seul regret, c'est que ce fut le seul livre de Diane Oliver, puisque la pauvre est morte accidentellement à 23 ans. Et donc, elle a laissé ce livre. Et donc, justement, quand vous lisez, vous vous dites, quel dommage, parce que elle aurait vraiment, avec cette plume et la maîtrise dont elle fait preuve pour ses 10 ou 11 nouvelles, je suis sûr, quasi sûr, que cette autrice, si elle avait pu vivre plus longtemps et proposer d'autres livres, aurait tracé une œuvre absolument majeure, parce que vraiment, quand vous lisez ses nouvelles, c'est à la fois fort, sensible, intelligent et vraiment, encore une fois, très subtil. Il n'y a pas de manichéisme, c'est vraiment vous-même qui, au fil de la lecture, vous façonne une opinion, et c'est vraiment très fort. Alors j'allais dire, dommage, on ne lira pas d'autres livres de Diane Oliver, mais au moins, reste à découvrir ce livre. Et vraiment, je vous engage à lire Les Voisins de Diane Oliver aux éditions Libretto. C'est un livre très fort.
Merci Sylvain. Christelle.
Oui, juste peut-être un dernier mot, parce que vient de sortir la première sélection du Goncourt. Et autant vous dire que je suis aux anges, puisque je vois que l'autrice dont j'ai parlé la semaine dernière, Anne Godard, avec ce titre « Nous aussi », qui pour moi reste vraiment un des titres les plus marquants de la rentrée, eh bien Anne Godard est dans cette première liste. Donc, eh bien, on lui souhaite vraiment un bel avenir dans ce Goncourt.
Merci Christelle donc pour vos choix, pour aujourd'hui.
Merci Eric.
Merci Sylvain.
Merci Eric.
Je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à l'Indépendante à Saint-Gaudens. À la semaine prochaine pour la suite, nouvel épisode de cette rentrée littéraire. Merci.